Le clivage, c'est bon. Tout le monde tweet, filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Wow.
9h40, démarrage en vrombe de l'instant M.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Croire une presse indépendante.
Formation numérique.
Le nez sur l'écran.
Faites entrer l'accusé, change de prétoire. Pas les assises, mais la correctionnelle. Ni viol, ni meurtre, c'est l'affaire OM Valenciennes que France 2 remet sur le tapis. Excellent jeu de mots, n'est-ce pas? Dossier qui nous intéresse d'autant plus qu'il a explosé loin des tribunaux, dans les médias. Bras de fer par caméras et micros interposés entre un procureur et un sacré menteur. Bonjour Frédéric Lantieri.
Bonjour Sonia.
Ce sera dimanche à 22h35. Bon, ça manquait un peu de tueur, cette histoire de match truqué. Romain Nigitas, salut Romain.
Bonjour Sonia.
Les serial killers reviennent en force ce soir sur Énergie 12 et c'est une bonne nouvelle. Le goût du sang, hashtag Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
On January 28th, Fox News Channel and Google will present the final Republican presidential debate before the
À 5 jours des primaires, Donald Trump ne se rendra pas au débat d'aujourd'hui dans l'Iowa. Nouveau coup d'éclat médiatique relayé évidemment dans le monde entier. Boycott surtout de la chaîne Fox News à qui Donald Trump réclame la tête de la journaliste politique star de cette campagne présidentielle, Megyn Kelly. On vous en a déjà fait le portrait dans l'Instant M, blonde peroxydée, je pense qu'elle s'habille en taille 32, ultra punchy, très conservatrice, elle officie sur la Fox, mais alors elle rentre dans l'art de Trump comme personne. Double page à lire ce matin dans Libération. Comment et pourquoi Vincent Bolloré serait sur le point de racheter beIN Sport, la chaîne qatari qui a pillé les droits sportifs de Canal+. Comment et pourquoi surtout le Qatar serait prêt à lui vendre de manière imminente. Voilà, Romain Nigitas s'est penché sur la naissance des serial killers, non pas dans l'histoire de la criminalité mondiale, mais bien à la télévision.
Laisse-moi superviser l'enquête. J'ai peur qu'il s'agisse du même tueur.
Quoi ?
C'est le troisième meurtre en 3 mois.
Si on refuse d'admettre que c'est un tueur en série, il ne sera jamais inquiété.
Regardez-moi. Regardez-moi m'en aller.
Ce soir sur Énergie 12 démarre The Fall. On avait déjà pu la voir sur 13e rue, mais c'est sa première diffusion en gratuit. C'est plutôt une bonne nouvelle. Excellente série britannique, dites-vous, un tueur en série qui s'introduit chez ses victimes, des jeunes femmes.
Et c'est une série à ne pas rater puisque The Fall suit en parallèle les agissements du tueur et de l'autre côté l'enquête menée par la police. Et ça fonctionne d'autant mieux que la série s'inscrit vraiment dans un cadre très terre-à-terre, parce qu'on est loin des tueurs machiavéliques et super intelligents. Ici, le tueur mène une vie tranquille, de père de famille ordinaire, mais une vie qui va progressivement s'effondrer. Il y a également un contexte essentiel puisque The Fall se déroule en Irlande du Nord, à Belfast, où les tensions religieuses vont évidemment prendre de l'importance. Et enfin, face à cette souris, il faut un chat redoutable. Et en l'occurrence, il s'agit d'une enquêtrice remarquablement interprétée par Gillian Anderson, la Scully de X-Files. Ici, elle joue une femme brillante et directe qui déstabilise ses collègues mâles. Une tension qui fait vraiment écho aux psychoses de ce tueur puisqu'il ne s'attaque qu'à des femmes qui ont réussi dans la vie.
Voyons. Allez, les tueurs en série de la télé, ils sont nés en gros il y a 20 ans. En 1996, date clé, arrivent quasiment simultanément deux séries américaines.
Alors ça, c'est le générique de Millennium, une série qui sort de l'esprit de Chris Carter, le créateur des X-Files.
De l'esprit malade.
Mais passionnant, puisqu'à cette époque-là, il est au faîte de sa gloire. Il donne naissance à cette série extrêmement réussie, mais aussi extrêmement sombre, puisque son héros, Frank Black, est au bout du rouleau. Mais il enquête tout de même sur des tueurs en série, avec en toile de fond les prophéties complotistes de l'an 2000. Une série vraiment ambitieuse qui n'a pas vieilli, en tout cas pour les deux premières saisons. Et puis sans prophétie, mais plus grand public, à la même époque, il y avait Profiler, qui déroulait elle aussi chaque semaine ses enquête sur des tueurs tous plus horribles les uns que les autres, avec notamment le psychopathe Jack de tous les coups en fil rouge.
Jack de tous les coups ?
Jack of all trades en
gros. Ah ok, d'accord. Bon, ça c'est pour les Américains. En France aussi, on s'y est mis assez rapidement, dès 1998, avec Crime en série sur France 2. Moi j'avais complètement oublié Crime en série.
Comme beaucoup de monde voulait oublier, c'est pourtant dommage puisque c'est Pascal Légitimus, le Pascal Légitimus des Inconnus, qui menait une équipe de profilers dans cette tentative plutôt réussie. En Europe, on suivait aussi des séries comme La Fureur dans le sang en Grande-Bretagne, The The Killing chez nos amis scandinaves.
C'est si vieux, The Killing?
C'est début des années 2000.
Ah oui, ouais. D'accord.
Et aujourd'hui, on retrouve Esprit Criminel sur TF1, que je n'aime pas trop, puisque je trouve que c'est à mi-chemin entre Les Experts Miami pour le jeu d'acteur au bazooka et Profiler pour les intrigues éculées.
Bon, en clair, c'est complètement nul donc. Toutes ces séries ont un point commun, hein, c'est vraiment laisser la police faire son travail. Ça va changer dans les années 2000 avec l'arrivée de tueurs superstars. Jusque-là, en gros, si j'ai bien compris, hormis Jack l'Éventreur ou évidemment Dr. Jekyll, les tueurs, c'était des simples proies. C'était jamais les héros de ces séries.
Ils n'étaient pas au centre des séries, voilà. Et ça change en 2006 avec Dexter, puisqu'on a un tueur en série dont les pulsions le poussent à tuer d'autres meurtriers pour pallier aux défaillances de la justice. Et c'est une position d'autant plus ambiguë pour les téléspectateurs que les séries nous placent dans sa tête via une voix off omniprésente. Mm-hmm. Alors, la formule fonctionne avec brio pendant les 4 premières saisons, mais c'est dommage parce qu'après un changement de showrunner, la suite est franchement abominable.
Bon, d'accord. Et là, dans la tête de qui on entre?
Là, c'est dans la tête d'Hannibal Lecter, un autre tueur superstar, le psychologue cannibale, qui a d'abord sévi en librairie, puis sur grand écran, avant de finalement arriver à la télévision en 2013 avec une série baptisée tout simplement Hannibal. Mm-hmm. Une véritable réussite, puisqu'on y retrouve le charismatique Mads Mikkelsen, qui prête ses trois personnages, et l'esthétique de cette série est aussi soignée que son écriture.
Bon, et quelques blagues là-dedans, ça pourrait pas faire de mal?
Maintenant, les Américains s'y mettent, notamment avec la série Scream, dont on a vu la première saison l'été dernier. Elle s'inspire évidemment des films Scream avec le tueur qui massacrait des lycéens qui connaissent les films d'épouvante. Mais c'est franchement loupé et c'est un peu le même cas pour Scream Queens, une autre série qui n'a aucun lien, qui est un mélange assez improbable d'esthétique pop et de tueur.
Frédéric Lantieri, dans l'histoire de Faites Entrer l'Accusé, c'est vos plus beaux cas, les tueurs en série?
Pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément du tout, parce que quelquefois, comme le dit Romain, ils sont quelquefois stupides, ou alors ils sont tellement dans la répétition que ça devient un peu ennuyeux.
Elle est bien bonne, c'est vrai. Le tueur en série qui se répète. Moi, je me suis demandé. Non, ben, on va lancer un jingle, on va écouter un extrait du fait d'entrer l'accusé de dimanche soir, donc c'est le Macho M Valenciennes.
L'instant M, M comme média.
Ça fait 40 ans qu'aucun événement, ni criminel, ni judiciaire, ni politique, n'a été couvert avec autant d'importance. Il faut tuer ce tapis. Que le jour où Mélic décrit son emploi du temps en disant « ben voilà, je suis parti, il était 3h30 par là, et je suis arrivé à 5h10 pour faire une photo. » Et le lendemain, toutes les rédactions, il y a 10 journalistes le lendemain qui ont fait la route avec leur voiture de mon bureau jusqu'à la mairie pour chronométrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des auxiliaires de police maintenant? C'est, ils volent à ce point-là ma tête?
Voilà, ils veulent à ce point-là ma tête, c'est tout à fait symbolique, ni viol, ni meurtre, ni braquage. C'est la première fois que Faites Entrer l'Accusé, Frédéric Lantieri, qui a été créé en 2000, n'est pas aux assises. Je me suis demandé, moi, si vous aviez totalement épuisé le catalogue des morgues et du pénal.
Non, ça serait peut-être une bonne chose pour l'humanité, mais non, il y a encore de beaux crimes qui fleurissent.
Donc c'est pas par défaut.
Non, pas du tout, c'est parce que justement, on s'ouvre à peut-être d'autres genres. Mm-hmm. Justement pour éviter la répétition. Cette histoire-là, elle est absolument formidable. Elle a exactement les mêmes ressorts dramatiques que n'importe quel fait divers, pratiquement. On voit des personnages avec des personnalités hors du commun qui s'affrontent. Il y a un duel hallucinant entre Tapie et le procureur de Montgolfier. Il y a
mais
des rebondissements.
Mais un duel que aucun scénariste de fiction n'aurait pu écrire, tellement ces deux-là sont fascinants. Alors évidemment, le personnage de Tapie, vulgaire, gouailleur, toujours en force, avec un culot, mais alors éhonté.
Incroyable.
Incroyable. Il en est
quand
siphonné tellement
ça,
il manque.
Mais oui,
exactement. Mais vraiment, le personnage central de ce documentaire, qui dure 2 heures, c'est Éric de Montgolfier, que vous avez eu en interview, à qui vous faites face, que vous ne ménagez pas, d'ailleurs, dans vos questions. Voilà, c'est quand même une histoire incroyable, celle d'Éric de Montgolfier, que personne ne connaissait à ce moment-là, qui sort de l'ombre,
qui
littéralement.
Qui sort totalement de l'ombre. C'est un magistrat, un aristocrate qui a la morale en bandoulière, vraiment incorruptible, qui croit dans la justice, qui s'exprime avec énormément d'élégance, qui choisit ses mots, Et face à lui, il y a Tapie, rentre-dedans, Roublard, menteur. Enfin, c'est le choc de deux cultures, de deux hommes.
Et j'aimerais bien, Frédéric, que vous nous redisiez quel est le rôle du procureur. Parce qu'on le comprend mal. Moi, j'ai justement découvert plein de choses. C'est-à-dire, dans cette phase, en amont du procès, quel est le rôle du procureur par rapport à celui du juge d'instruction?
Alors, Éric de Montgolfier a une phrase formidable. Mm-hmm. Il dit « Moi, j'ameute la foule. Mm-hmm. » Ce qu'il veut dire par là, c'est que le juge d'instruction ne peut pas parler. Mm-hmm. Et que lui, il a l'autorisation, droit. Il a le droit, mm-hmm, de s'exprimer. Donc, il va le prendre. Et, mm-hmm, plus Tapie va le prendre lui-même, plus il va y répondre. C'est-à-dire que c'est quand même un match par médias interposés. Mm-hmm. Tapie parle, et ben je reparle dessus, enfin, mm-hmm, etc., etc. Et lui, il a cette liberté de parole. Et donc, il ne va surtout pas s'en priver. La loi lui autorise de parler régulièrement. D'ailleurs, vous verrez dans n'importe quelles affaires,
c'est le procureur qui prend la parole,
qui fait des conférences de presse, qui raconte ce qu'on peut savoir d'un dossier. Donc, c'est un droit qui lui est accordé.
Alors, on va l'écouter justement, Éric de Montgolfier, à l'époque. Hein, c'est une archive.
J'ai cru entendre de Monsieur Tapie un appel clair à la hiérarchie judiciaire pour museler le procureur de la République. C'est dommage. C'est dommage, et j'ai bien peur que je ne sois ainsi condamné à poursuivre ces points de presse.
C'est dommage, il est quand même très pince sans rire, hein. Il est quand même très pince sans rire. Vous lui rentrez dans l'art immédiatement dans votre interview qu'on pourra voir dimanche soir. Vous n'aimez pas le football, monsieur le procureur. Et il vous répond, oui, en effet, je n'aime pas de football. Et il a là aussi une très belle phrase, il estime que là n'est pas la gloire de la France, et pourtant l'OM venait de remporter une Coupe d'Europe.
Donc la seule Coupe d'Europe qu'a jamais remportée la France, hein,
exactement,
d'ailleurs.
Et lui, il vous dit, voilà, en même temps, c'est une région appauvrie, c'est le nord de la France. C'est Valenciennes, et j'ai estimé que c'était trop important
pour des gens pauvres. Elle est formidable, cette
très,
phrase.
Très, très belle conception de la justice.
Oui.
Hein.
Parce qu'en fait, il pense que c'est un enjeu tel, mm-hmm, pour des gens modestes qu'il, mm-hmm, se doit absolument de l'incarner, en tout cas de défendre à leur côté cette image un peu idéalisée du foot.
Voilà. Et en même temps, il est assez lucide, il a des regrets. Il pointe, par exemple, comment le juge d'instruction va utiliser un mandat de dépôt comme moyen de pression.
Et il est très, très clair, il est d'une lucidité formidable.
Incroyable.
Et lui-même, il dit, moi aussi, j'ai demandé l'incarcération parce que c'était un moyen de faire pression.
Voilà.
Bien sûr.
Sur un joueur de l'OM, hein, qui a été accusé de faux...
Jean-Jacques Edley, oui.
Voilà, de faux témoignages.
Mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément, quand même, de mises en détention de cette affaire. Hein, mm-hmm. Que ça soit Christophe Robert, que ça soit Bernet, que ça soit Edley, tous ces gens-là sont allés à détention pour des faits, somme toute, assez mineurs, enfin,
assez
de corruption,
mineur.
Certes.
Oui, assez mineurs.
Et il le dit, je l'ai fait pour faire pression, et ça a marché.
Alors, il y a deux volets, hein. Il y a le volet médiatique, on va y revenir évidemment, mais vous lui dites aussi de manière très frontale, est-ce que vous vous êtes acharné contre des puissants? Il y avait deux anciens ministres, Tapie venait d'être ministre au gouvernement de Mitterrand.
Et Mélic.
Voilà, qui lui avait servi, Jacques Mélic, qui lui avait servi d'alibi.
Eh ben oui, et il dit, ces gens-là avaient, en raison de leur fonction, la fonction qu'ils avaient exercée, mm-hmm, ils devaient se comporter encore plus droit que tous les autres.
Voilà, un devoir d'exemplarité. Oui, un devoir d'exemplarité. Alors, on vient d'entendre donc Éric de Montgolfier à l'époque dire « Ah, c'est dommage, on veut m'empêcher de parler, je vais continuer ». On aurait pu croire à un duel totalement asymétrique sur le terrain des médias. Tant Tapie était puissant à ce moment-là. Et pourtant, en face de lui, ce petit procureur va donner une conférence de presse par jour.
Oui, tout à fait.
Et ça ne se faisait pas à l'époque.
Non, il va considérer que c'est de son devoir de, mm-hmm, le faire, de ne pas laisser le mensonge s'instiller comme ça dans les médias. Il va penser qu'il est de son devoir de répondre systématiquement.
Parce que Tapie a accès immédiatement au JT de 20h.
Ah oui,
il est sur
TF1. Il a toutes les entrées qu'il veut à TF1 et il ne s'en prive pas.
Et il ne s'en prive pas, et en plus il y va en assénant sa vérité. Il y a énormément de journalistes qui sont interrogés dans ce document de dimanche soir, Le Point, Le Monde, Le Nouvel Obs, La Voix du Nord, France 3, Méditerranée. On sent bien que la presse a été un acteur à part entière de ce dossier.
Tout à fait.
Donc il y a eu la chasse au scoop, hein, une sorte de course-poursuite, oui, entre les journalistes et la justice. Ça, c'est assez classique dans les affaires que vous redécortiquez.
Mais je pense que les journalistes aussi étaient contents de ne, mmh, pas se laisser berner par Tapie. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que le procureur cherchait la vérité et ils sont allés de son côté aussi. Et je pense que ça marque un tournant. À un moment donné, les journalistes d'investigation ont dit stop et ont enquêté eux aussi et n'ont pas accepté d'avaler n'importe quelle couleuvre.
Alors, en matière de témoins, moi, ce qui m'a étonné dans ce documentaire, c'est que vous n'avez pas Tapie, vous n'avez pas Berès, vous n'avez pas les trois joueurs de Valenciennes, y compris celui qui a tout balancé au moment de la mi-temps et qui a été relaxé. Il avait tout raconté. Vous n'avez pas Jacques Mélic non plus. Est-ce qu'ils ont refusé de vous parler? Pourquoi est-ce que vous ne le mentionnez pas comme font tous vos confrères qui mettent en scène l'investigation? Et est-ce que ça risque pas de donner un biais à votre façon de raconter l'histoire?
Non, puisqu'ils se sont exprimés à l'époque. Donc on a... On peut pas dire qu'ils ne parlent pas et qu'ils ne sont pas présents dans le film. Ils sont présents par des archives nombreuses et variées. On ne dit jamais dans aucun fait entrer, vous voyez
jamais,
bien. On
jamais.
Ne dit jamais telle victime n'a pas voulu nous parler,
non,
ou
jamais.
Tel accusé ou tel avocat.
Ce que
n'a
font
pas
tous les journalistes d'investigation, oui, ça devient même une coquetterie. Quoi.
Voilà. Mais non. Je pense que tous les spectateurs savent que s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils n'ont pas voulu parler.
Et vous n'avez pas peur donc de raconter cette histoire par le biais du procureur. D'ailleurs, vous avez titré votre document « Le procureur et les menteurs ».
Non. Non, parce que Tapie a suffisamment la parole. Il est à ce moment-là dans les archives. On voit qu'il est tellement soutenu par François Mitterrand, qui est le président de la République de l'époque quand même, et qui, en pleine allocution du 14 juillet, prend fait et cause pour lui. C'est absolument incroyable.
Honteux.
C'est honteux.
Ça fait partie des grands moments de la Mitterrandie.
Il a abaissé sa fonction quand même d'une façon redoutable.
Frédéric Lantieri, vous, avec...
Je voudrais juste citer, il y avait une phrase extraordinaire d'Éric Routier dans ce document, pour justement pour vraiment qualifier...
Un des journalistes qui a couvert l'affaire à l'époque.
Pour qualifier un peu les deux hommes, il dit que donc l'un est un aristocrate et que l'autre porte sa vulgarité comme l'aristocrate porte ses couleurs. Et je trouve ça assez formidable.
Avec Faites entrer l'accusé, vous refaites l'instruction de procès et le procès d'affaires qui ont eu un grand retentissement médiatique, la plupart du temps. Donc déjà, vous avez affaire à des acteurs qui sont épuisés par les journalistes. Et puis en plus, les médias ne cessent de recycler ces affaires, avec la multiplication des émissions dédiées sur la TNT. Comment vous faites quand vous arrivez sur le terrain pour qu'on vous ouvre encore la porte et qu'on vous raconte encore une fois l'histoire?
Eh ben, c'est l'image de marque de Faites entrer l'accusé. C'est parce qu'on sait, les gens savent, que leur propos ne sera pas déformé, qu'ils auront le temps de s'exprimer, qu'on respectera absolument leurs paroles, que tous les acteurs vont s'exprimer, que toutes les vérités vont émerger. Je veux dire, on a un souci absolument de réalité qui fait que je pense que tout le monde finit par accepter, bien sûr.
Merci beaucoup Frédéric Lantieri. Le Proc et les menteurs, c'est dimanche à 22h35. D'ici là, pas de problème, Fabrice Drouel vous attend tous les jours à 15h avec ses affaires sensibles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il se replonge dans les manifs agités de l'année 1961. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia De Villers. Dans Un jour en France ce matin, parole de binationaux. Quel regard le projet de déchéance de nationalité, même amendé par le gouvernement. Témoignez, surtout si vous êtes binational, évidemment. 01 45 24 7000 et unjouranfrance@radiofrance.com.
Ce sera juste après les infos.